Bienvenue dans Dessine-moi un corps, le podcast pour tous les amoureux du corps et d'histoire de l'art. Bonne écoute.
Pourquoi les statues antiques ont-elles un petit zizi? On a tous posé cette question. Je vous vois tous là. Vous riez sous cap. N'empêche que la réponse à cette question n'a pas toujours été si évidente. De même que la représentation du sexe masculin à travers les siècles en histoire de l'art. Allez, c'est parti. Focus sur peut-être la partie la plus controversée. Bonne écoute. Alors bien sûr, pour représenter des sexes masculins, on se sert du prétexte mythologique ou historique. Mais là où on est habitué à voir des nus féminins poitrine dénudée, car notre œil de male gaze est habitué à en voir depuis les débuts de l'histoire de l'art, eh bien les choses se corsent pour les hommes qui ne sont pas habitués à être portraiturés entièrement nus, à Walp, allez hop Jean-Mich. À notre époque, c'est un antagonisme, puisque beaucoup de choses autour de nous sont phallocentrées, où on dit qu'elles ont une forme phallique, qu'elles prennent le dessus sur les autres formes, les buildings, les sculptures de Jeff Koons, etc. En Inde, chaque été, des dizaines de milliers de pèlerins se rendent à la grotte d'Amarnath, au Cachemire indien, pour se prosterner devant une stalagmite représentant, je vous le donne en mille, le sexe en érection du dieu Shiva. Le problème étant que sans représentation du sexe masculin, on ne peut pas techniquement parler de nudité. Revenons à la source première de tout ça, le récit de la Genèse avec le fameux épisode d'Ève qui, poussé par le serpent de la tentation, croque dans le fruit. Remake de Blanche-Neige, hop, expulsion d'Adam et Ève du paradis. Pour illustrer ce fameux passage ô combien utilisé dans toute l'histoire de l'art, j'ai choisi ce tableau de Cranach l'Ancien qui nous montre une Ève au visage sensuel presque taquin, les branches folles de la végétation couvrant ses parties génitales, tandis que les cornes du cerf sont placées subtilement devant le sexe d'Adam, comme pour le souligner. « Eh oh, je suis là !» Bon, la nudité et le nu en général provoquent la méfiance du christianisme car le nu peut susciter des pulsions du désir sexuel et autres déviances inavouables. Commence alors un jeu entre artiste et censeur. La végétation fait alors office de cache-sexe, et plus particulièrement la végétation que l'on retrouve dans le jardin d'Éden, comme la feuille de vigne qui sera bien plus tard considérée comme le symbole de la censure. Mais les choses évoluent et d'autres choses vont progressivement remplacer la végétation. Bizarrement, les subterfuges ne sont pas les mêmes chez les hommes que chez les femmes. On s'en serait douté. Chez les hommes, ce sera plutôt cordes nouées, épées étincelantes, flèches ensanglantées, cactus. Alors que chez les femmes, on voit plutôt coquillages, boucles de cheveux, miroirs, fleurs, trucs niais quoi. Comme dans ce tableau de Gustave Moreau, Jason et Médée, où l'on voit nettement la différence de traitement entre Jason et Médée. Le sexe de Médée est caché uniquement par une fine branche de lierre, tandis que le sexe de Jason est certes caché mais mis en valeur par le gros nœud de drapé jaune qui lui ceint les hanches. Le cache-sexe est véritablement une caution pour faire un nu aiguichant, le cacher pour le montrer encore plus et ainsi renforcer le pouvoir symbolique de virilité masculine. Pour la petite anecdote, j'ai trouvé ça mignon, mais il s'avère que le papillon peint dans un tableau comme cache-sexe symboliserait la force sexuelle et l'endurance, rien que ça. Regardez le tableau La chute des titans du peintre néerlandais Cornelis van Aarlem. Vous ne verrez plus les papillons de la même façon. On ne peut pas, et j'insiste là-dessus, éluder la question de la taille. Oui bon, je vous vois venir, c'est pas la taille qui compte, machin. Eh ben si, mes amis, on assiste à l'invention du nu intégral en Grèce antique, sauf que pour les hommes, on emploie le terme scientifique de microgénitomorphie. Un corps masculin parfait, idéalisé avec un sexe infantile au repos. C'est l'image de l'homme qui domine ses pulsions et donc son animalité. Un homme intelligent selon les Grecs. On évoque, on transforme, on efface. Regardons par exemple le diadumène de Polyclète, copié vers 100 avant Jésus-Christ, d'une statue en bronze de Polyclète. On dirait presque qu'il n'en a pas. Et puis parfois, si on regarde de plus près les fresques érotiques à Pompéi, on peut les comparer à la pornographie actuelle avec ses visions fantasmées de l'homme très bien pourvu. Cela concerne surtout des représentations du dieu Priap, le dieu du plaisir, et son sexe surdimensionné. Comme vous l'avez compris, la censure frappe fort. L'Église se veut exemplaire. Celle qui en a fait les frais, c'est la fresque du jugement dernier de la chapelle Sixtine du Vatican, qui a dû se rhabiller. L'apprenti de Michel-Ange a dû repeindre des voiles par-dessus les sexes apparents des hommes. Cela lui vaudra le doux surnom de culottier, il braghettone en italien. Au XVIIIe, on va même jusqu'à mutiler des statues ou carrément les planquer dans les collections privées. Le sexe est incompatible avec la beauté, et je ne parle même pas des poils pubiens quasiment inexistants en histoire de l'art. Mis à part le premier nu féminin de Giorgione, avec un timide triangle pubien, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. La représentation du membre sexué pousse l'érotisme à son paroxysme. Une vague de pudibonderie va agiter alors toute la bien-pensance au cours de la période de la Restauration à Paris comme en province. Dès 1815, le ministre des Beaux-Arts désire couvrir les statues du jardin des Tuileries d'une feuille de vigne en zinc. Cette initiative est bien sûr appuyée par la morale chrétienne qui plaide pour la moralité des jeunes gens, en particulier les jeunes filles. C'est ensuite la Révolution, grâce à un tableau dont j'ai maintes fois parlé dans ce podcast. Roulement de tambour, L'origine du monde de Gustave Courbet, bien sûr. Pour la première fois, on peint la réalité d'un sexe de femme ouvert. Mais alors, du côté des sexes masculins, toujours rien, nada, silence radio, que chi. Suzanne Valadon peint Adam et Ève à l'image d'elle et son amant en 1909. Elle les peint entièrement nues, le sexe masculin aussi apparent que le sexe féminin. Puis elle se censure elle-même en 1920 pour pouvoir être exposée au salon, car le public aurait été choqué de la nudité d'Adam. Elle n'a pas pu s'affranchir totalement de la censure. Et c'est pareil dans d'autres tableaux qu'elle a pu réaliser auparavant. Rappelons quand même qu'il s'agit d'une femme qui peint un sexe d'homme. Ça a du mal à passer à l'époque dans les petites têtes des hommes blancs du patriarcat. On sent comme une étrangeté autour de la représentation du sexe. Encore une fois, presque uniquement du point de vue occidental, les choses sont différentes ailleurs en Inde notamment, ou dans l'Archinga au Japon. Puis vient la libération des corps. Certaines artistes comme Sylvia Legge ou Hélène Altfest représentent carrément le pénis en plan rapproché, avec tous ses détails, vous m'avez compris. J'aime particulièrement le travail de l'artiste espagnole Esther Ferrer, qui nous montre une personnification de l'organe sexuel masculin avec ses pénis mitrailleuses, engins de mort et non source de vie. Maintenant, l'imagerie contemporaine en est pleine, peut-être même trop. La culture populaire se l'est appropriée aussi. Le sexe que représentent les artistes de nos jours est presque exclusivement masculin. Comme le dit très bien Michel Verniolle, il ne s'agit pas de l'organe réaliste dont les dimensions académiques ornent les statues de l'Antiquité ou celles de Michel-Ange, mais bien du fantasme viril par excellence, érigé, surdimensionné, titanesque. Sarah Lucas le tourne d'ailleurs en dérision dans son œuvre Au naturel, datant de 1994, dans laquelle elle met en scène sur un matelas, symbolisant un pénis en érection, un concombre avec deux oranges pour le corps de l'homme, deux melons et un seau, symbolisant le corps de la femme. J'en parle dans mon épisode masculin vs masculin, mais le corps de l'homme n'a pas toujours été accepté comme tel. Et si pendant des siècles, on a longtemps cherché à invisibiliser le sexe masculin au même titre que la vulve, par exemple, il s'est bien rattrapé depuis et est même omniprésent dans notre société occidentale. J'ai néanmoins trouvé qu'il était important de faire un épisode sur cette partie du corps. J'espère que ce focus vous aura plu. On se retrouve très vite pour un autre mini-épisode spécial partie du corps. À la prochaine !